Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard.
Aujourd'hui, Les choses de Georges Perec. Après la rédaction de trois romans, entre 1957 et 1963, Les choses, prix Renaudot en 1965, vaut à Georges Perec la reconnaissance littéraire. Par ce livre, Perec propose une histoire des années 60, celle d'une société de consommation envahie par les objets et les modes. Avec l'objectivité d'une caméra, il raconte l'évolution de deux jeunes héros, Jérôme et Sylvie, étudiants en sociologie, qui, malgré leur désir d'indépendance d'esprit, sont aspirés par leur fascination pour les objets que leur propose, par exemple, un magazine comme l'Express. Le roman met ainsi en œuvre une dialectique de l'avoir et de l'être, puisque c'est à travers l'accumulation des choses que les deux personnages prétendent donner sens à leur vie. Mais en vain. Dans les années 1960, Perec s'est construit en opposition à trois courants. Celui de l'absurde, car il refuse la disparition du sujet humain, sa dissolution dans un univers vide de sens. Celui des écrivains engagés de l'après-guerre, tels Sartre ou Camus, auxquels il reproche d'avoir construit des fictions où l'intrigue et les personnages ne sont mus que par la défense d'une idéologie. Celui du nouveau roman, qui, dans la lignée de Robe Grillée, refuse, à l'excès selon lui, tout réalisme et déshumanise le réel en renonçant à la cohérence de l'espace et du temps et en rejetant l'analyse psychologique. Pour Perec, il s'agit donc d'incarner la société dans la fiction pour montrer le conflit entre elle et l'humain en tentant de le dépasser. Georges Perec est né le 7 mars 1936 à Belleville, dans le 19e arrondissement de Paris. Il n'a guère connu ses parents, morts en déportation. Son père est un juif polonais immigré du nom de Peretz. Engagé volontaire contre l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, il est mortellement blessé par un obus le 16 juin 1940. On donne au petit Georges un nom d'origine bretonne, Perec. En 1941, sa mère, pour lui sauver la vie, l'envoie en zone libre à Villard-de-Lans, dans les Alpes. Recueilli par un oncle et une tante, il devint interne dans un collège catholique où il fut baptisé en 1943. Georges retourne à Paris en 1945, où il est pris en charge par une famille. Plus tard, au lycée des Tempes, son professeur de philosophie saura lui donner confiance en lui. Ses études supérieures en histoire inachevées, il veut écrire et très tôt collabore à des revues littéraires. De janvier 1958 à décembre 1959, il effectue son service militaire à Pau, dans un régiment de parachutistes. À Paris, en 1959, Georges Perec rencontre Paulette Pétras, étudiante à la Sorbonne, et ils se marient le 22 octobre 1960. Paulette Pétras étant nommée enseignante à Sfax, en Tunisie, le couple s'y installe, mais revient l'année suivante. Perec devient en 1962 documentaliste en neurophysiologie au CNRS. Il se sépare de Paulette en 1969, mais ils ne divorceront jamais, restant malgré tout étroitement liés jusqu'à la mort de Perec. Après plusieurs essais infructueux de romans, Les choses assure sa renommée en 1965. Le tournant de sa vie littéraire fut son entrée dans le groupe de l'Oulipo, fondé par Raymond Queneau. Les exercices oulipiens vont inspirer en grande partie une œuvre profuse, labyrinthique, souvent cocasse, dont l'un des meilleurs exemples sera La Disparition, un roman de 300 pages où la lettre E n'est pas une fois employée. On s'accorde à citer La Vie mode d'emploi comme son chef-d'œuvre. Georges Perec meurt à 45 ans, d'un cancer du poumon, le 3 mars 1982, à l'hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine, seulement quelques mois après avoir publié 25 choses avant de faire, avant de mourir. Ses cendres reposent désormais au Columbarium, case 382 du cimetière du Père-Lachaise à Paris. En 2012, paraît le roman Le Condottiere, dont il avait égaré le manuscrit en 1966 pendant un déménagement et qui ne fut retrouvé qu'en 1992, 10 ans après sa mort. En 2017, son œuvre entre dans la Pléiade. Pour une superficie totale de 35 mètres carrés, qu'ils n'osèrent jamais vérifier, leur appartement se composait d'une entrée minuscule, d'une cuisine exiguë dont une moitié avait été aménagée en salle d'eau, d'une chambre aux dimensions modestes, d'une pièce à tout faire, bibliothèque, salle de séjour ou de travail, chambre d'amis, et un coin mal défini, à mi-chemin du cagibi et du corridor, où parvenait à prendre place un réfrigérateur de petit format, un chauffe-eau électrique, une penderie de fortune, une table, où ils prenaient leur repas, et un coffre à linge sale qui leur servait également de banc. Certains jours d'absence, d'espace devenaient tyranniques. Ils étouffaient. Mais ils avaient beau reculer les limites de leurs deux pièces, abattre des murs, susciter des couloirs, des placards, des dégagements, imaginer des penderies modèles, annexer en rêve leur appartement voisin, ils finissaient toujours par se retrouver dans ce qui était leur lot, leur seul lot, 35 mètres carrés. Leur appartement serait rarement en ordre, mais son désordre même ferait son plus grand charme. Ils s'en occuperaient à peine, ils y vivraient. Le confort ambiant leur semblait un fait acquis, une donnée initiale, un état de leur nature. Leur vigilance serait ailleurs, dans le livre qu'ils ouvriraient, dans le texte qu'ils écriraient, dans le disque qu'ils écouteraient, dans leur dialogue chaque jour renoué. Puis ils dîneraient ou sortiraient dîner. Ils retrouveraient leurs amis. Ils se promèneraient ensemble. Il leur semblerait parfois qu'une vie entière pourrait harmonieusement s'écouler entre ces murs couverts de livres, entre ces objets si parfaitement domestiqués qu'ils auraient fini par les croire de tout temps créés à leur unique usage, entre ces choses belles et simples, douces, lumineuses. Mais ils ne s'y sentiraient pas enchaînés. Certains jours, ils iraient à l'aventure. Nul projet ne leur serait impossible. Ils ne connaîtraient pas la rancœur, ni l'amertume, ni l'envie, car leurs moyens et leurs désirs s'accorderaient en tout point, en tout temps. Ils appelleraient cet équilibre bonheur et sauraient, par leur liberté, par leur sagesse, par leur culture, le préserver, le découvrir à chaque instant de leur vie commune. Comment faire fortune ? C'était un problème insoluble. Et pourtant, chaque jour, semble-t-il, des individus isolés parvenaient, pour leur propre compte, à parfaitement le résoudre. Et ces exemples à suivre, éternels garants de la vigueur intellectuelle et morale, au visage souriant et avisé, malin, volontaire, plein de santé, de décision, de modestie, étaient autant d'images pieuses pour la patience et la gouverne des autres, ceux qui stagnent, piétinent, rongent leurs freins, mordent de la poussière. Ainsi rêvaient-ils, les imbéciles heureux, d'héritage, de gros lots, de tiercés. De grands élans les emportaient. Parfois, pendant des heures entières, pendant des journées, une envie frénétique d'être riche, tout de suite, immensément et à jamais, s'emparait d'eux, ne les lâchait plus. C'était un désir fou, maladif, oppressant, qui semblait gouverner le moindre de leurs gestes. La fortune devenait leur opium. Ils s'en grisaient, ils se livraient sans retenue au délire de l'imaginaire. Partout où ils allaient, ils n'étaient plus attentifs qu'à l'argent. Ils avaient des cauchemars de millions de joyaux. Pour ce jeune couple qui n'était pas riche, mais qui désirait l'être, simplement parce qu'il n'était pas pauvre, il n'existait pas de situation plus inconfortable. Ils n'avaient que ce qu'ils méritaient d'avoir. Ils étaient renvoyés alors que déjà ils rêvaient d'espace, de lumière, de silence, à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie. Et c'était peut-être pire, de leur logement exigu, de leur repas quotidien, de leurs vacances chétives. C'était ce qui correspondait à leur situation économique, à leur position sociale. C'était leur réalité, et ils n'en avaient pas d'autre. Mais il existait à côté d'eux, tout autour d'eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient pas ne pas marcher, les offres fallacieuses, et si chaleureuses pourtant, des antiquaires, des épiciers, des papetiers. Paris entier était une éternelle tentation. Ils brûlaient d'y succomber avec ivresse, tout de suite et à jamais. Mais l'horizon de leur désir était impitoyablement bouché. Leur grande rêverie impossible n'appartenait qu'à l'utopie. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.